tourne. Alors, bienvenue dans notre podcast. Je suis Augustine Zélie et je partage un moment avec Pauline Olfé-Gaillard pour les éditions Azoué. Pauline, bienvenue.
Merci.
Votre dernier livre, votre troisième livre chez Azoué, s'intitule « Dans les pas du vent ». Pourquoi ce titre? Comment est-il né? À quel moment vous est-il venu à l'esprit? Que signifie-t-il? Et quel est le thème du livre?
Alors, pour être très très honnête, c'est pas moi qui ai eu l'idée du titre. C'est l'éditrice. Moi, j'avais tout bonnement choisi Marcus, qui est le nom du personnage principal. Mais comme le titre était pris, il a fallu en trouver un autre. Et donc, c'est Carole qui l'a trouvé avec son génie des mots. Et alors, en fait, ça résume très bien l'histoire, parce que dans les pas, c'est un homme qui part marcher. Et pourquoi le vent? Parce qu'à un moment dans l'histoire, c'est le vent qui va lui amener la solution de son problème. Tout simplement.
Donc, voilà. Parfait, parfait. Et comment est né ce personnage de Marcus? Comment avez-vous trouvé? Parce qu'il porte un nom très particulier, pas du tout usité par chez nous. Donc, comment il est venu?
Alors, ça serait... Je vais essayer d'être brève, parce que c'est toute une histoire. En fait, vous savez, quand on écrit, on a des tas de choses qui nous trottent dans la tête. Et une nuit, comme ça, j'ai toute une histoire qui me vient. Je, par paresse, je ne la note pas. Et le lendemain matin, plus rien ne m'était resté, sauf ce prénom Marcus. Donc, vous ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je ne connais pas de Marcus. Je ne sais pas.
Bah, maintenant, sorti, oui.
Voilà, il est sorti des profondeurs de mon inconscient. Et ça m'a bien plu parce que, justement, c'est un prénom qui n'est pas très usité ici. Mmh. Et puis, en faisant des recherches, en fait, Marcus est donc un prénom romain. Prénom d'empereur, et donc je trouvais que finalement, bien que ce personnage au début on le trouve en très mauvaise posture, bien finalement il allait conquérir quelque chose, c'est-à-dire lui-même, donc c'était pas si mal.
C'est une quête, voilà. On y reviendra. Combien de temps avez-vous mis pour rédiger ce troisième roman?
Alors c'est difficile à dire parce que moi j'écris pas d'une manière continue, j'écris puisque je travaille à côté. Pour l'écrire, j'ai mis un an et demi à peu près, enfin écrire la base. Après, pour tout le retravail, on va dire peut-être 6 mois, donc en tout 2 ans. À peu près, oui.
Pensez-vous avoir toujours le contrôle du texte? Ou parfois, l'histoire vous a-t-elle emmené et vous a surprise quand vous laissez transparaître dans l'écrit même? Vous êtes peut-être laissé surprendre par l'écriture. Je vous cite. Page 63, j'avais le sentiment que c'était mon stylo qui guidait les phrases. Je fusionnais, presque honteux, de voir se dévider ces pensées intimes. Elles noircissaient les lignes et rien n'arrêtait l'élan de ma main.
Alors, oui...
Est-ce que c'est vous qui parlez?
Alors, bien sûr que c'est intéressant parce que comme je me mets dans la place d'un homme, parfois,
oui,
j'ai fait
aussi
des incursions sur ma propre pensée, mais je pense qu'un homme pourrait penser la même chose. Et que parfois, effectivement, dans l'écriture, et dans ce roman particulièrement, c'est le personnage qui m'a embarqué. En fait, je n'avais aucune idée. Comme je vous l'ai dit au départ, mon histoire s'était envolée, il ne me restait que ce prénom. J'ai écrit presque en écriture automatique le début du livre. Et c'est cet homme qui m'a emmené avec lui sur le chemin. Alors évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais quand même pas jusqu'au bout. Je dis, non, ben non, au bout d'un moment, les choses se sont tissées. Mais au départ, je n'avais absolument pas l'idée de ce qui allait lui aller arriver, ni pourquoi il partait. Donc, on peut, en tout cas, il y a le personnage qui a pris la main sur moi. Et puis, c'est vrai que moi, assez souvent, je peux avoir des fulgurances comme ça, de phrases entières qui me viennent et que je...
Donc, vous êtes surprise vous-même?
Voilà. Oui, oui,
les paragraphes vous arrivent,
ça
les histoires.
Alors, relativement, pas toute l'histoire, c'est par moment qu'il peut y avoir comme ça des fulgurances. Bon, c'est pas tout le temps, mais c'est vrai que ça arrive. Et quand elles sont là, je les enregistre, les note, et puis j'essaye de les mettre dans le texte.
Alors justement, par rapport au personnage, pensez-vous être la même avant d'avoir connu ce personnage, ou lui qui est parti pour une transformation, vous a-t-il aussi transformé à son tour?
Ah, c'est une bonne question, parce que je ne me suis pas identifiée moi-même à ce personnage. Bon, la question de la quête, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Les autres livres en parlent déjà. Donc oui, c'est sûr que c'est quelque chose que je connais. Mais je ne suis pas sûre que Marcus m'ait profondément changé. Non. Mais bon, après, peut-être il faudrait laisser ce soin aux professionnels de l'inconscient pour trouver des trappes que je n'ai pas trouvées moi-même.
Alors, justement, on l'a évoqué tout à l'heure. Pourquoi et comment avez-vous eu cette envie d'écrire comme si vous étiez l'homme? Quelle a été cette démarche d'être dans la peau d'un homme? Et je vous cite, parce que vous avez été très loin par rapport à l'idée d'être un homme. J'ai un regard attendri pour mon sexe mou qui ne bande plus le matin depuis quelques jours. Donc, vous êtes vraiment rentrée dans la peau d'un homme à un point
oui,
crucial,
si alors, alors, oui, parce que... alors, pour plusieurs raisons. Des raisons très actuelles qui dérivent des courants wokistes américains où on nous explique qu'une femme ne peut pas écrire à la place d'un homme, un homme ne peut pas écrire à la place d'une femme, un noir ne peut pas écrire à la place d'une blanche. Enfin, il y a tout un débat là-dessus, moi, qui me dépasse complètement. Donc ça, c'était déjà un peu... Je suis un peu rebelle, donc ça m'agaçait un petit peu, ces théories. Donc j'avais envie de prouver le contraire. Et puis, que la psychologie masculine m'a toujours intéressée parce qu'elle est différente de la nôtre, d'une part, et que bien souvent, on la catégorise, on la stigmatise, on la simplifie, et que pour moi, en tout cas pour en avoir quand même beaucoup entendu dans mon cabinet de thérapeute, il me semble que les hommes ont quand même beaucoup de choses en commun aussi avec nous. Et voilà. Et bon, alors après, quand le passage dont vous parlez, ben oui, le sexe, l'homme vit beaucoup à travers son sexe, et donc c'est un des témoins de sa plus ou moins vitalité. Donc, ça me semblait normal, en tout cas pour cet homme-là, dans l'épreuve qu'il
dans
traverse,
l'épreuve, ouais.
Que ça soit une espèce de témoin de son état intérieur.
Mmh.
Voilà.
D'accord.
Et pour moi, ce n'est pas compliqué d'écrire là-dessus, parce que, ben oui, j'ai beaucoup d'hommes dans mes patients, mmh. Donc, on ne va pas dire que je peux complètement me mettre à la place d'un homme, mais ça ne m'est pas
étranger. Entre-apercevoir.
Mmh. Ce que peut être, alors c'est très compliqué, je pense que j'y suis que partiellement parvenue, parce que je pense qu'il y a aussi forcément beaucoup de moi, donc alors est-ce que c'est ma part masculine qui s'est mise à parler
et vous lui avez laissé sa part féminine,
voilà,
en contrepartie.
Voilà, c'est ça, exactement.
Alors, je reviens au commencement, parce que j'ai trouvé ça sympathique et voilà, surprenant. Parce qu'en fait, on ouvre le livre et on ouvre une page et c'est Marcus qui ferme une porte. J'ai trouvé que le commencement était... Du coup, il nous happe tout de suite parce que nous, on ouvre, on veut rentrer dans l'histoire et lui, paf, il en ferme une, mais on ne sait pas laquelle. Donc ça, j'ai trouvé que c'était chouette. On ne sait pas sa destination, on ne dévoilera pas trop ici pour laisser le lecteur apprécier toute sa lecture. Mais ce n'est pas un aventurier non plus.
Non.
Donc il part... C'est pas un aventurier. Et nous, on commence, il s'en va. Alors, on va le suivre. On a envie d'être dans ses pas à lui, déjà, pour commencer. Comment vous pouvez qualifier aussi les relations de votre héros, donc Marcus, avec ses proches? Comment vous qualifiez avec sa femme, avec son frère, et avec toutes ces rencontres?
Alors... Je dirais que Marcus est un homme qui a vécu jusqu'alors, jusqu'au moment, jusqu'à quelques mois avant qu'on le rencontre, sans se poser toutes ces questions de comment on est en relation, est-ce qu'on est en relation. C'est pas des choses qui le touchaient. On est ou on n'est pas. Ses parents étaient des gens simples qui ont... fui la misère, qui sont parvenus à élever leurs deux fils, ça c'était déjà phénoménal. Et donc l'important dans cette famille, c'était de vivre, de réussir, et bon, de savoir comment se passaient les relations les uns avec les autres, ça existait, quoi, c'est tout. Il n'y avait pas de discussion là-dessus, en fait. Il y avait son frère, sa belle-sœur, sa femme, c'est encore un petit peu autre chose.
C'est un parent particulier, oui.
Ses parents, mais... je dirais que c'était comme moi, j'en ai rencontré beaucoup, des gens qui ne se posent pas de questions. C'est-à-dire, on vit ce qui est. Et tant que ça roule, en fait.
Mais là, ça roule sans trop bien rouler, en fait.
Ça roule sans trop bien rouler, parce qu'effectivement, il y a eu un événement qui est venu bousculer, justement, l'ensemble de toutes ces relations. Voilà. Et qui lui a fait prendre conscience que... peut-être il y avait autre chose que simplement vivre, voyager, travailler et satisfaire les besoins primaires, en fait. Voilà. C'est aussi... alors, ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais moi, je suis convaincue qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Ils ne sont pas forcément stigmatisés. C'est-à-dire que tant que la vie roule, elle roule, quoi.
Ouais, c'est au moment de l'accident qu'on...
C'est au moment
pas du pépin,
voilà,
qu'on se dit, tiens...
Qui peut y avoir des...
Oui, c'est pas pour certains, hein, se réveiller à l'âme humaine, enfin...
À autre chose.
Autre chose que, voilà. Que
Et quand la relation avec sa femme, en fait, ils étaient tous les deux, finalement, des gens de l'air, hein, avec un rythme de vie en décalé, occupé à être ici et nulle part ailleurs, en fait, en même temps. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que ça venait compléter cette espèce de tableau où on est avec l'autre sans être avec l'autre, et on est tout le temps entre deux endroits, on se pose un peu, on repart, donc il n'y a toujours que de la discontinuité, finalement. Donc, comment on établit des relations dans une discontinuité,
voilà, c'est à chaque pas, à chaque pas, une nouvelle chose.
Voilà, aussi. Alors c'est vrai que c'est compliqué de parler de ce livre sans en dire trop, parce que si on dévoile trop, peut-être qu'on ne donnera plus envie aux gens de le lire.
Mais si, j'espère. Mais justement, c'est fait pour que j'ai envie de le lire. On va passer à une autre rubrique que moi j'apprécie, parce que j'ai lu vos deux précédents livres, et que là, une fois encore, j'apprécie ce talent que vous avez pour décrire les paysages. Vraiment, on est dans le paysage. Vous décrivez les couleurs, les végétations, les parfums. Et en fait, dans ma lecture, ce que j'ai ressenti, c'est que ces paysages apparaissent aussi comme des pansements. Et pour notre héros, il traverse des paysages comme si c'était une guérison. L'aventure et la nature sont guérisseurs. Est-ce que c'est valable aussi pour vous ?
Complètement, en fait. C'est-à-dire que sans dévoiler quelle a été mon adolescence et mon enfance, elle a été marquée par des graves traumatismes. Et heureusement que j'habitais la campagne, et heureusement que j'avais la nature, parce que c'est elle qui m'a sauvée. C'est-à-dire que dès qu'il y avait trop de fracas, moi je partais toute petite, marchant.
En fait, c'est la beauté aussi.
Mais c'est pas que la beauté, c'est peut-être quelque chose de cette énigme. Extrêmement organisé, extrêmement riche, multiple, qui nous entoure, qui peut faire comme mer, en fait, comme...
Enveloppement.
Enveloppement.
Alors, justement, voilà. C'était ma question un peu pour poursuivre. Dans la description des paysages, effectivement, vos paysages... Ce que vous êtes en train peut-être de dire, et je m'appuie sur des citations, c'est-à-dire que les paysages sont incarnés et sensuels. Alors, je vous cite, page 25. « Mais est un moi destiné au départ. La nature vous sourit à chaque portée du regard. Même l'herbe des talus paraît avoir été déposée, là, verte, tendre, comme un baiser offert par la terre aux yeux qui regardent. La peau tendue comme une offrande, ma peau pour la caresser. » Et je continue avec un extrait aussi, page 29. « Ce fut l'odeur du humus et de rosée qui salue tout à coup mes narines, puis celle des pins, des romarins et de toutes les garrigues réunies pour enchanter mon aube. » Et même parfois, vous mangez et vous buvez le paysage, littéralement vous en nourrissez. Page 35. « Ces 15 jours... sur l'autre, ces 15 jours sur l'autre rive du Rhône, où les Cévennes et l'Ardèche se frôlent, je les ai bu, me suis enivrée à la crête des montagnes, j'ai laissé le vent attendrir ma peau et la Voie lactée m'habiller de son manteau. » On pourrait dire aussi que cette quête est juste un prétexte à manger le paysage. Page 117 encore. Pourtant, Par moments, ce paysage m'a embarqué avec lui au-delà de moi-même. J'ai aimé l'infini du ciel sur les rondeurs de la lande, le souffle léger du vent à mes oreilles, les traces des murs éboulés, pierres grises abandonnées à la marche du temps, herbe jaunie par le sec de l'été qui se profile. J'ai noyé mon corps fatigué dans ce paysage austère comme un chemin de croix.
C'est tout à fait moi, ça. Ça, pour le coup, je pense que ça se retrouvera dans beaucoup de choses que j'ai écrites, parce que c'est essentiel pour moi. C'est essentiel, et c'est vrai que
Vos racines, mais les racines dans plein sens du terme.
Mais c'est, au-delà de mes racines, ça a été peut-être un peu fort, mais ça a été presque mon deuxième utérus, quoi. Mmh. C'est-à-dire que dans les tourmentes que j'ai traversées.
Oui, c'est la matière. Voilà. C'est matériel, voilà, c'est matière, maternel.
Ça m'a enveloppée, ça m'a tenue, et encore aujourd'hui, quoi. Mmh.
C'est un refuge, encore. Ouais, c'est, la nature est un refuge.
Et à la fois un émerveillement, c'est-à-dire que c'est pas simplement.
Une consolation, une guérison.
Mais il y a aussi quelque chose, peut-être, qui me fait croire en quelque chose qui est au-dessus de nous, parce que c'est, il y a une générosité dans ce que je perçois. Bon, même si je sais que la nature peut être sauvage et cruelle, c'est pas ça, je suis pas
oui,
en train de
bien
faire
l'angélisme. Oui,
mais dans ce mystère qui compose la nature, il y a quelque chose d'universel, il y a quelque chose qui peut-être me donne une dimension spirituelle, au sens large, si je puis dire. Voilà.
Oui, donc, l'intelligence divine, en fait, aussi.
Oui, alors, je ne sais pas si j'emploierais le mot divin, mais en tout cas, quelque chose qui me dépasse et qui peut-être, finalement, pourrait réussir à donner un sens. C'est un peu, peut-être un peu tordu.
C'est pas tordu, c'est vraiment génial. Et aussi... Donc, pour revenir à l'humain, maintenant, voilà, je vais faire cette parenthèse sur la nature parce qu'elle est vraiment très forte et c'est vraiment une de vos pattes qu'on retrouve dans les trois premiers livres. La rencontre des personnages et ces différents personnages, sont-ils tous imaginaires? Les avez-vous rencontrés? Aimeriez-vous peut-être les rencontrer dans la réalité aujourd'hui? Par exemple, il y a le berger, il y a plein de monde.
Alors, ils sont tous imaginaires.
Tous imaginaires. Aucune inspiration dans la réalité, dans votre vie?
Non, sans doute, ça aurait été des personnes que j'aurais aimé rencontrer, ça, probablement.
Ah, vous aimeriez les rencontrer. Lequel vous a le plus fasciné quelque part?
Ben, c'est-à-dire que tous apportent quelque chose de propre. Bon, le berger, évidemment, mais la tendresse de cette petite Madame Rosa qui est tout amour avec une générosité pas possible, mais aussi la secrétaire de mairie qui est vilaine, mais qui est pas belle, mais qui finalement est aussi attentive. Enfin, en fait, ce qui m'intéressait, c'était ces personnages de peu. En fait, c'est des gens qui seraient des anonymes, en fait, gens dont on parlera jamais, ils font jamais la une des journaux, mais ils composent nos trésors d'humanité. Et je crois qu'il y en a partout, des gens comme ça.
Et qui sont ses oasis aussi, dans sa quête.
C'est ça.
Ils l'aident à leur manière.
C'est ça. Mais je pense que ma conviction profonde, c'est que des gens comme ça, il y en a partout. Alors, il y en a un qui sort du lot, évidemment, c'est Anton.
Oui.
Parce que lui, c'est un personnage.
Oui, on a de la tendresse. Alors, c'est Anton. On a envie de le rencontrer.
Oui.
Mais on voudrait qu'il soit vrai.
Alors, je ne peux
pas. Mais je voudrais revoir dans un autre livre.
Cet Anton, je ne sais pas non plus comment il est né, j'en sais rien. On va dire que celui-là, il sort un peu du lot, c'est-à-dire qu'il a peut-être un pouvoir un peu particulier du fait de sa cécité, je ne sais pas. Je dirais que c'est celui qui est peut-être un peu en marge de tous les autres. Mais ce jeune étudiant, Étienne, là, qui s'intéresse aux ermites aussi, je ne sais pas comment ça m'est dit, pourquoi quelqu'un s'intéressera à des ermites, mais peut-être qu'il y a un sociologue qui s'intéresse à des ermites, je ne suis pas allée vérifier, il y a peut-être des thèses sur ces gens-là. Après, le personnage de Sam, donc l'ami, ça aussi, ça m'intéressait de voir comment des hommes vivaient l'amitié.
Oui. C'est vrai.
Parce qu'on parle beaucoup des amitiés féminines, et c'est vrai que les femmes ont cette habileté quand même. On parle moins des amitiés masculines, ou alors on les résume souvent à,
au foot,
ouais. Voilà, au sport, ouais. Aller boire des coups, des choses comme ça. Et que,
oui, c'est moins dans la profondeur.
Et moi, je pense qu'il peut y avoir des aussi amitiés de entre hommes.
Plus profondes.
Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Voilà, donc c'est pour ça que ben, je voulais choisir aussi un personnage très différent de lui, avec une histoire très différente. Alors peut-être la seule chose que j'ai pu peut-être tirer de mon expérience, c'est que j'ai travaillé longtemps avec des familles adoptantes. Donc l'adoption, c'est un sujet que je connais un peu. Mm-hmm. Donc voilà, sans doute que si ça m'est adopté, c'est peut-être à cause de ça. Mais sinon, non, j'ai pas rencontré de Sam dans ma vie. Mm-hmm. Non, ils sont tous sortis de mon imaginaire, les personnages.
Alors là, je vais aller sur un autre terrain. C'est les actions du personnage principal, Marcus, se tricotent en permanence entre des actions... bien sûr, et des réflexions. C'est-à-dire qu'en fait, il est balancé, est-ce que j'active quelque chose ou est-ce que je réfléchis sur quelque chose. Et dans son voyage, dans sa quête, il y a ce tricotage d'attitude permanente où il dit, bon, ça y est, je fais quelque chose, et après, hop, il s'écroule. Voilà, je cite, par exemple, page 116, « Je me sentais oppressée, ne pas chercher pourquoi, fuir les pentes trop raides de la pensée. Je restais un moment à regarder les passants. Je sortis mon casse-croûte et ma gourde. Mes gestes étaient étrangement lents. » Et aussi, plus tard, dans le texte, « Besoin de me raccrocher à des actes. » Voilà. Comme si, il a quelque part, il a peur de sa réflexion, donc il actionne quelque chose. Mais quand il actionne quelque chose, enfin voilà, il était... ce que j'ai pu ressentir,
exactement ça.
Ok, voilà. Il est perdu entre est-ce que j'actionne ou est-ce que je réfléchis.
Ben, en fait,
en tout cas, c'est bien rendu. C'est bien ce que
c'est pour ce que je voulais traduire par l'effet de cette marche sur lui. C'est-à-dire que ça a été un homme d'action. Quand on est dans des petits avions, dans le monde entier, la pensée, surtout la pensée, affective ou qui évoque des choses plus ou moins douloureuses, elle a pas de place. Quand on est dans un petit avion, c'est opérationnel.
Donc suivre les étapes, le processus.
Et donc lui, il a été là-dedans, que là-dedans. Mmh. Et en plus, il devait rendre compte des performances de l'appareil, donc il ne devait pas rendre compte de ses émotions en volant. Il devait rendre compte de la résistance à l'air, tous les détails techniques qu'on fait quand on s'occupe d'un petit avion. Donc lui, c'est l'effet, l'action, et ses parents fonctionnaient comme ça, et toute sa vie a été organisée comme ça. Sauf que lui, après ce qu'il a vécu et ce pourquoi il part, est venu ébranler d'autres zones de lui-même. Donc il est dans cette espèce de balancement entre ce que ce temps vacant lui offre, c'est-à-dire il marche, mais c'est très erratique, en fait, il n'a pas un parcours, il ne se dit pas « je vais aller là, demain », c'est pas précis, c'est pas prévu à l'avance. Donc ça ouvre une vacuité, et dans cette vacuité, il y a des choses qu'il n'avait pas rencontrées qui commencent à germer. Et donc ces choses-là, au début, il les réfute, ça lui fait peur. Donc dès qu'elles arrivent, il va mettre un acte aussi banal que trier son sac, le vider, le rendre, ça il le fait plusieurs fois.
Il arrive, on ne dit pas pourquoi.
Il a besoin de faire des choses pour ne pas être envahi par des pensées dont il en a... Enfin, il en découvre juste peu à peu les teneurs. D'ailleurs, à un moment, il dit, des démarcheurs savent pourquoi ils partent. Moi, je ne sais toujours pas ce que je cherche. En fait, je suis partie, mais je n'ai toujours pas trouvé pourquoi je suis partie.
Ça, on va le découvrir quand même. Hein. À peu près au milieu du livre, on comprend ce qui se passe. Là, est-ce que je peux abuser un peu parce que, est-ce que vous aimeriez... nous partager votre processus d'écriture. Qu'est-ce qui... Alors, parce que là, il s'agit d'un roman. Est-ce que vous avez envie de nous partager comment vient... parce que comme c'est quand même le troisième roman, et je crois que vous préparez encore quelque chose, Est-ce que vous avez ce processus qui revient toujours le même, ou est-ce qu'il change selon le roman, selon l'histoire, selon les personnages? Est-ce qu'il y a un processus qui change ou pas, ou je sais pas? Est-ce que vous voulez bien nous en parler un peu?
Oui, c'est... Alors, il y a plusieurs choses dans le mot processus. Si on parle des temps proprement dits d'écriture, ce sont toujours des temps que je me donne, quand même, régulièrement, comme des rendez-vous avec moi-même, pour écrire en soi. Mais j'écris tout le temps dans ma tête, en fait. Ah, okay. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai commencé un travail d'écriture, je suis tout le temps en train d'y penser, enfin tout le temps, j'ai en rien, mais... J'y pense énormément. Donc, il y a d'abord vraiment tout un travail dans
l'intérieur.
Et puis, des temps donnés d'écriture. Et puis, parfois, des temps fulgurants où je ne peux pas attendre le temps donné que je me suis fixé. Donc, où je vais ou dicter à mon téléphone ou écrire sur un papier des choses qui me paraissent absolument nécessaires à écrire. Et puis, en plus, pour Marcus, j'avais utilisé un autre outil qui s'appelle le journal de l'écrivain. Où je consignais mes pensées du jour, quelles qu'elles soient, et irrémédiablement, il y avait des pensées sur le travail en cours de Marcus, et que je stabilotais, qui étaient reprises plus tard. Donc ça, c'est pour le côté pratique. Après, quant aux idées, y a trois livres, trois processus différents.
Ah oui, c'est dingue.
Celui-là, je vous ai dit, hein, j'avais une histoire dans la tête, je l'ai perdue. De rage, j'ai écrit les 12 premières pages quasiment d'une manière automatique. Et après, c'est le personnage qui m'a embarqué. Et c'est un peu fou de dire ça, mais c'est lui qui m'a amené, qui m'a tiré par la manche. Ouais, ouais. Ce qui n'a pas été le cas pour les deux autres.
Ah oui, voilà. Donc il y a à chaque histoire, son processus quasiment.
Alors, bah,
enfin, en tout cas, pour vous, à 16 jours.
Voilà, ouais. Pour moi. Mm-hmm. Par contre, après, les dispositifs que je mets en place pour écrire sont globalement à peu près toujours les mêmes. Mm-hmm. Mais pourquoi ça me vient, d'où ça me vient, pour moi, ça reste très mystérieux. Et je vous dis, celui-là, il se construit à l'opposé du premier, où le premier, j'avais déjà l'idée de la fin avant l'idée du début.
Ah oui. Ah oui,
j'ai commencé par écrire la fin.
Ah oui, c'est dingue.
Et c'est le début. Et du coup, j'ai tricoté pour arriver, de partir d'un début pour arriver à cette fin. Là, j'avais commencé un début sans savoir où j'allais.
Parfait. Ben, merci. Extraordinaire.
Voilà.
Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, ou une question que vous auriez aimé que je vous pose en plus?
Non. Alors, la seule chose qui est un peu frustrante par rapport à ce livre, c'est comme on ne peut pas dévoiler le cœur du sujet.
Oui, mais bon.
Or, ce cœur du sujet est quand même quelque chose, disons, une thématique qui m'est chère.
Oui.
C'est facile à dire comme ça. Oui. Mais voilà. Donc, en fait, ça serait bien de refaire une interview avec les gens qui l'ont lu pour qu'on puisse parler vraiment.
Ça serait,
mais pour le présenter, on peut pas, voilà.
Oui, voilà, parce que si on dévoile le livre, après, on est moins enclin à le suivre et à courir après lui. Mais pourquoi il part? Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, non, ça, on peut pas, spoiler. Non, c'est pas possible. Non, maintenant, il faut lire le livre, voilà. Eh bien, écoutez, Pauline, merci d'avoir reçu si gentiment répondu à mes questions. C'était donc Augustine Zélie pour les éditions Azoé. Merci.